Chapitre 25. Aveuglés par leur grotesque quête d'âme, les Chountooks se jetaient sur la muraille d'acier, tendant leurs mains aux longs ongles recourbés, claquant des mâchoires, ils n'avaient qu'une idée, déchiqueter de la chair. Bien entendu, les soldats les mettaient en charpie, mais les demi-humains des rangs suivants attaquaient avec autant d'enthousiasme. Voir les cadavres de leurs congénères ne les décourageait pas. Ces guerriers avaient eu leur chance, ils n'avaient pas su la saisir, et ils méritaient simplement d'être piétinés par ceux qui les suivaient, qui tombaient eux-mêmes comme des mouches. Dans cette marée, Callan repéra le premier mort ranimé aux yeux rouges. La poitrine ouverte, des côtes en jaillissant, dévoilant ses poumons, il n'avait plus qu'un bras. L'inquisitrice nota qu'il ne respirait pas, ce qui semblait assez logique pour un mort animé par de la magie noire. Callan comprit qu'on allait entrer dans son domaine de compétence. Face aux lames ordinaires, les morts animés ne tombaient pas aisément. Mais l'épée de vérité, une arme très ancienne, était justement conçue pour vaincre ce genre d'adversaire. Soulagé de pouvoir enfin déchaîner toute la fureur de l'épée, Callan la battit sur le cadavre ambulant, le coupant quasiment en deux. Il tenta quand même de continuer sa charge, mais trop abîmé, s'écroula sur le sol, la moitié gauche inerte, tandis que la droite essayait encore de ramper. Un deuxième coup mit fin à ses velléités. Callan avança, cherchant le contact avec les autres morts animés dont elle voyait les yeux briller dans l'obscurité. Les soldats se chargeraient des Chountooks vivants, à elle de les soulager en les débarrassant des morts. Ayant localisé une autre cible, elle bondit et la décapita. Puis, dans le même mouvement, elle fit sauter la tête d'une morte ambulante. Déchaînée, elle transperça ensuite la poitrine d'un demi-humain bien vivant qui écarquilla les yeux de surprise avant de basculer en arrière, désormais raide mort. Dégageant sa lame, l'inquisitrice tailla en pièces les deux corps sans tête, histoire qu'ils ne puissent plus s'en prendre aux défenseurs avec leurs bras et leurs jambes. Dans sa rage de tuer, Callan remarqua cependant que les Chountooks se ruaient sur elle. « Parce qu'ils reconnaissaient son âme, se souvint-elle. Pour eux, elle était un trophée et le prisonnier avait décrit le sort qu'ils entendaient lui réserver. Ensuite, des sbires du roi spectral l'attendraient de l'autre côté du voile. » Soudain, la jeune femme s'aperçut qu'elle avait commis une erreur. En partant à la chasse aux morts animés, elle s'était bien trop enfoncée dans les lignes ennemies. Même en étant ainsi piégée, elle continua à éprouver une étrange euphorie tandis qu'elle massacrait des demi-humains. Ils venaient à elle? Eh bien tant mieux, ça lui épargnerait la peine d'aller vers eux. L'ivresse du combat occultait totalement le danger, et chaque victime de plus augmentait encore la soif de sang de son arme. Callan embrocha, éventra ou décapita des dizaines d'hommes et de femmes au corps couvert de cendres. Ce qui aurait dû être un piège mortel pour elle se transforma en une charge fantastique. Des montagnes de dépouilles l'entouraient, lui faisant comme des défenses naturelles. Glissant sur le sang et les entrailles, certains Chountooks se tuaient en se cognant la tête contre une pierre, d'autres périssaient sous les coups de l'inquisitrice avant d'avoir pu se relever. Même si la rage de l'épée l'animait, Callan restait assez lucide pour chercher à éliminer en priorité les demi-humains aux yeux rouges. Massacrer les autres au passage était en somme un bonus. Tandis qu'elle coupait des membres ou ouvrait en deux des torses, des geysers de sang l'aspergeaient en poissant ses vêtements et ses cheveux. Mais ce n'était pas assez, il lui en fallait plus. Frappant de plus en plus vite, de plus en plus fort, elle continua à s'enfoncer parmi les Chountooks. Les soldats comprirent très vite qu'elle s'exposait beaucoup trop. Jack Pfister se fraya un chemin sanglant jusqu'à elle afin de la soutenir. Avec ses énormes bras, il semblait être né pour tailler en pièces des adversaires. D'autres hommes rejoignirent Callan et son compagnon, les aidant à ne pas être submergés par le nombre. Perdue dans sa fureur de tuer, l'inquisitrice ne s'en aperçut que très vaguement. Avec l'épée de vérité entre les mains et une horde d'ennemis autour d'elle, une seule chose comptait, tuer pour ne pas être tuée. Comme si sa vie entière n'avait été qu'un prologue à cet instant où elle se transformait en une messagère de la mort. Sa formation, son expérience, ses convictions, tout ça s'était combiné pour faire d'elle, en cet instant unique, une machine à prendre des vies. L'épée de vérité se nourrissait des motivations de celui ou de celle qui la maniait. Elle sentait ce que cette personne tenait pour le bien ou pour le mal. Par exemple, elle aurait refusé de frapper quelqu'un que son propriétaire provisoire considérait comme un allié. En revanche, elle fauchait impitoyablement tous ses ennemis. Lorsqu'une personne dévouée à la cause de la raison et de la vie la maniait, cette arme devenait le symbole même de la justice. Aux yeux de Callan, les demi-humains et leurs deux chefs étaient l'incarnation du mal. De sa vie, elle n'avait jamais éprouvé une colère si puissante. Sous ses coups, les bras coupés tombaient sur le sol et les têtes volaient dans les airs. Sur un tapis de cadavres et de fragments de corps, elle accomplissait son œuvre vengeresse. Par endroits, les Shuntok avaient du sang et des viscères jusqu'aux chevilles. Décapitant un demi-humain, Callan vit sa tête s'envoler puis retomber sur la roche et rebondir plusieurs fois avant de se fracasser comme une noix. Les compagnons de l'inquisitrice faisaient autant de dégâts qu'elle. Tout bien pesés, les Shuntok n'étaient pas très faciles à tuer. Dépourvus de cuirasses et de boucliers, ils n'utilisaient même pas d'armes pour parer ou dévier les coups. Quand ils se protégeaient le visage avec un bras, ça leur coûtait le membre en question avant que la lame leur fasse éclater la tête. Jusque-là, Callan n'avait pas encore vu un demi-humain dégainer un couteau. En digne prédateur, leurs dents leur suffisaient, mais pour l'heure, c'était eux qui devenaient les proies. Les haches, les masses d'armes et les épées de la première phalange faisaient un carnage. Pourtant, les Shuntok continuaient d'accourir, comme s'ils étaient des centaines de milliers. Très loin de là, à l'entrée du défilé, Remkin et ses hommes devaient livrer le même genre de combat. Mais le marteau aurait besoin de faire un long chemin pour venir frapper l'enclume. Soudain, un des guerriers, devant Callan, fit une chose très étrange. S'immobilisant au milieu de la mêlée, il sourit. Malgré la fureur de l'épée qui coulait dans ses veines, Callan sentit son sang se glacer. La regardant dans les yeux, sans jamais détourner la tête, le demi-humain tendit une main vers un des soldats sur la droite. Le malheureux hurla quand la peau de son visage commença à fondre. Son hurlement mourut quand son crâne s'ouvrit en deux comme si on venait de le trépaner. Dans leurs orbites, ses yeux se liquéfièrent littéralement puis se mêlèrent à sa chair en fusion. Il mourut avant même de toucher le sol, son corps se désarticulant. Toujours souriant, le Shuntok tendit alors le bras vers l'homme qui se battait sur la gauche de Callan. La même horreur se reproduisit. Le pauvre soldat fondant littéralement debout, la chair se détachant de ses os. Comme son compagnon, il succomba en quelques secondes. Callan arma son épée, courut et frappa à la vitesse de l'éclair. Alors qu'elle fendait l'air en direction du Shuntok souriant, la lame siffla assez fort pour couvrir le vacarme du combat. Ajoutant sa fureur à celle de son arme, l'inquisitrice cria à s'en casser les cordes vocales. Entaillant d'abord le cou du demi-humain souriant, l'épée remonta et fendit en deux sa mâchoire, effaçant enfin l'affreux rictus triomphant de son visage. Puis une moitié de sa tête, dans le sens de la hauteur, se détacha de l'autre. Sans marquer la moindre pause, Callan doubla son cou, tranchant un bras du guerrier au niveau de l'épaule. Enfin, pour faire bonne mesure, elle l'éventra proprement. Un Shuntok doté de pouvoir de moins. Certes, mais la démonstration de ce tueur montrait à quel point les demi-humains étaient en réalité dangereux. Ses adversaires n'avaient ni cuirasse ni armes, mais contre leur magie noire, l'acier des soldats ne pouvait rien. Leur code de maille n'avait pas protégé les pauvres gars carbonisés en quelques secondes. Et face à une telle attaque, Callan doutait que Nietzsche, Zed ou Irena disposent d'une parade puisque la magie normale ne pouvait rien contre les Shuntok spéciaux. Un peu plus tôt, Callan avait vu des demi-humains traverser des flammes sans broncher. Et si la magie classique avait pu le tuer, le Shuntok souriant n'aurait jamais pu arriver jusque-là. L'acier fonctionnait, mais combien faudrait-il tuer de sorciers noirs avant d'en avoir fini avec cette menace? Pour ce qu'en savait Callan, il pouvait y en avoir des centaines capables de liquéfier la chair de leur cible, soit largement assez pour venir à bout des défenseurs. En un éclair, toute l'équation venait de changer. Callan se retourna et poussa ses compagnons afin qu'ils l'imitent. « On se replie !» cria-t-elle. Ayant vu ce qui s'était passé, Pfister leva son arme et lança « Retraite! Courez! Courez !» Si on le leur avait ordonné, les hommes de la première phalange seraient morts sur place. Se fiant à leur chef et à la femme de leur seigneur, ils battirent en retraite sans hésiter. Au passage, Nietzsche prit Callan par le bras.
« Que se passe-t-il ? »
L'inquisitrice entraîna la magicienne avec elle.
« Tu sais neutraliser la magie noire ? Sinon, après ce que je viens de voir, je n'ai qu'un conseil à te donner. File d'ici !»
Nietzsche ne discuta pas. Callan n'avait plus l'ombre d'un plan en tête. À première vue, s'il voulait s'en tirer, leur seule chance était de courir plus vite que les Shuntuk, et de tenter de distancer un prédateur était un pari quasiment perdu d'avance.